VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 3 janvier 2022. En direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, démission du Premier ministre Abdallah Hamdok après la mort de 3 autres manifestants.
Au Mali, une dizaine de partis rejettent la durée de la transition proposée à la CDAO par la junte au pouvoir.
En Tunisie, l'homme fort d'Ennahda, Nouridine Biri, interpellé vendredi, a été hospitalisé dans un état critique.
En République démocratique du Congo, un mort dans la répression d'une manifestation de miliciens démobilisés hier au Nord Kivu.
En Afrique du Sud, le Parlement a été ravagé hier par un incendie, un suspect arrêté.
Le président Joe Biden assure à l'Ukraine que les États-Unis répondront énergiquement à une invasion russe.
Ne manquez pas notre passeport avec Élisée Mpatine.
Pour l'instant, le journal.
Au Soudan, le Premier ministre civil Abdallah Hamdok a annoncé sa démission hier soir à la télévision d'État. Une annonce faite après de nouvelles manifestations meurtrières. Le point avec Nathalie Barge.
J'ai tenté de mon mieux d'empêcher le pays de glisser vers la catastrophe alors qu'aujourd'hui il traverse un tournant dangereux qui menace sa survie. Au vu de la fragmentation des forces politiques et des conflits entre les composantes de la transition, malgré tout ce qui a été fait pour parvenir à un consensus, cela ne s'est pas produit, a déclaré Abdallah Hamdok dans son adresse à la nation. Des milliers de Soudanais ont encore manifesté hier, faisant face à des tirs de grenades lacrymogènes devant le palais présidentiel à Khartoum et à des balles réelles à Omdurman. La capitale soudanaise est depuis plusieurs jours coupée de ses banlieues par des conteneurs placés en travers des ponts sur le Nil. Internet et les téléphones portables ne sont plus connectés depuis hier matin et des blindés armés de mitrailleuses lourdes surveillent les passants sur les principaux axes.
Selon un syndicat de médecins pro-démocratie, 3 manifestants ont succombé à des balles ou à des coups de bâton des forces de sécurité lors de défilés qui ont de nouveau rassemblé des milliers de personnes malgré la coupure totale des communications et un déploiement massif de soldats en armes. En tout, 57 manifestants ont été tués et des centaines blessés depuis le coup d'État le 25 octobre dernier, le général Abdel Fattah al-Burhan.
Au Mali, une dizaine d'organisations politiques maliennes ont rejeté ce dimanche la durée de la transition de 5 ans proposée la veille par le gouvernement à la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Samedi, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré à la télévision publique qu'il avait présenté au président du Ghana, Nana Akufo-Addo, président en exercice de l'organisation, une prolongation de 5 ans de la transition, au plus à compter du 1er janvier.
Dans un communiqué publié hier, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réunie indique que cette échéance, outre qu'elle viole la charte de la transition, n'a pas fait l'objet de discussions au Mali et ne saurait être en aucun cas une aspiration profonde du peuple malien. Par conséquent, le cadre rejette ce chronogramme unilatéral et déraisonnable, ajoute-t-il. Les assises nationales de refondation organisées du 11 au 30 décembre dernier ont recommandé une transition d'une durée de 6 mois à 5 ans, sans trancher. Les dirigeants ouest-africains se réuniront en sommet extraordinaire au Mali, le 9 janvier à Accra.
Oui, un sommet extraordinaire sur le Mali, le 9 janvier à Accra. En République démocratique du Congo, un milicien démobilisé a été tué hier par balle lors de la dispersion d'une manifestation contre les mauvaises conditions de vie dans leur camp dans l'est du pays, selon un responsable local. Des centaines de miliciens démobilisés qui se plaignent de manque de nourriture et de soins médicaux ont bloqué pendant au moins 5 heures un axe routier stratégique qui approvisionne Goma, capitale du Nord Kivu, en produits alimentaires et sert de voie d'évacuation des minerais.
En Tunisie, l'ex-ministre de la Justice, Nouridine Biri, homme fort du parti d'inspiration islamiste Ennahda, a été transféré dans un état critique à l'hôpital de Bizerte 2 jours après son interpellation, ont affirmé ce dimanche des militants de ce mouvement et des députés. Après plus de 2 jours de silence, Rached Ghannouchi, chef d'Ennahda et dont M. Biri est considéré comme proche, a diffusé hier soir une lettre au président Kais Saied en lui imputant la responsabilité de révéler son état, de rassurer sa famille et l'opinion publique.
Ennahda est au cœur d'un bras de fer avec le président Kais Saied depuis son coup de force du 25 juillet et sa décision de suspendre le Parlement que ce parti contrôlait depuis une dizaine d'années.
En Afrique du Sud, un violent incendie a ravagé hier le Parlement sud-africain au Cap. 70 pompiers ont lutté contre le feu pendant de longues heures. La police, qui privilégie la piste criminelle, a arrêté à l'intérieur du Parlement un homme de 51 ans qui va être présenté à la justice demain, mardi. Le point avec Eric Manirakiza.
L'enceinte de l'Assemblée nationale, la chambre où les membres siègent entièrement brûlés, a déclaré son porte-parole Maloto Motapo, précisant que le feu s'est déclenché dans 2 parties distinctes du Parlement. Il semblerait que le système d'extinction automatique n'ait pas fonctionné, a déclaré à la presse le président Cyril Ramaphosa, qui s'est rendu sur place. Le travail du Parlement se poursuivra, a toutefois ajouté le chef de l'État, qui doit y prononcer un discours à la nation en février. Dans l'aile la plus ancienne de l'édifice, achevée en 1884, le toit s'est effondré. Le feu est ensuite allé brûler les parties plus récentes. Des images aériennes ont montré d'immenses flammes s'échappant des toits. L'édifice abrite une précieuse collection de livres et d'art. Le bâtiment avait déjà été victime d'un incendie rapidement circonscrit en mars, partie également de son aile la plus ancienne. Les récentes annexes ont été construites dans les années 20 et 80. Le Cap est depuis 1910 le siège du Parlement composé de l'Assemblée nationale et d'une chambre haute nommée Conseil national des provinces, alors que le gouvernement est installé à Pretoria.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La hausse du nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis suit une courbe presque verticale, ce qui n'est pas pour l'instant le cas des hospitalisations, a déclaré hier le docteur Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, Nathalie Barge.
Le docteur Anthony Fauci a souligné que cette augmentation de cas de COVID-19 est sans précédent, avec une moyenne d'environ 400 000 nouvelles contaminations par jour. Les hospitalisations sont aussi en hausse, mais pas au même rythme, a-t-il précisé sur la chaîne ABC. Citant des données sud-africaines et anglaises, le docteur a affirmé qu'il y a de plus en plus de preuves que le variant Omicron conduit à des formes moins sévères de la maladie. Selon lui, avec tant d'infections, il pourrait toutefois conduire plus de personnes à l'hôpital, mettant ainsi une pression sur le système hospitalier. M. Fauci a dit espérer que la vague actuelle atteigne son pic après quelques semaines avant de s'inverser, comme en Afrique du Sud. À la veille de la rentrée scolaire, l'immunologue a appelé les parents à faire vacciner leurs enfants et les inciter à porter le masque. Lors d'une interview sur Fox News, le ministre de l'Éducation, Miguel Cardona, a déclaré que l'objectif était de maintenir un apprentissage en présentiel à plein temps. Selon lui, les établissements scolaires devraient élaborer une stratégie pour que les élèves qui ont des symptômes soient testés à l'école.
Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a contracté le COVID-19, a annoncé hier le Pentagone, précisant qu'il souffrait de symptômes légers et resterait en quarantaine chez lui pendant les 5 prochains jours. Dans un communiqué diffusé par son ministère, M. Austin précise être pleinement vacciné, y compris avec une 3e dose de rappel, ce qui fait que l'infection est beaucoup plus légère qu'elle ne l'aurait été autrement, écrit-il.
Les vaccins marchent et resteront une exigence médicale militaire pour notre personnel, a ajouté le chef du Pentagone. Je continue à encourager tous ceux qui sont éligibles à une dose de rappel de l'affaire. Plusieurs membres importants du Congrès ont récemment annoncé avoir été eux aussi contaminés.
Le président américain Joe Biden a assuré à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un appel téléphonique ce dimanche que les États-Unis et ses alliés répondront énergiquement si la Russie envahissait l'Ukraine, a indiqué dans un communiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. M. Biden a également souligné l'engagement de Washington au principe de rien à propos de vous sans vous, faisant apparemment référence à la nécessité d'inclure l'Ukraine dans les négociations sur son propre avenir.
Deux personnes sont toujours portées disparues et une a été retrouvée vivante après des incendies qui ont détruit près d'un millier de maisons jeudi dans l'État américain du Colorado, ont indiqué les autorités dimanche, qui ajoutent que des recherches étaient toujours en cours pour retrouver les deux autres. Au moins 991 maisons ont été détruites par les flammes qui ont ravagé jeudi des quartiers entiers de Superior et Louisville, deux localités voisines de Denver, la principale ville de l'État. Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Du foot à une semaine du début de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, la préparation des sélections est grandement perturbée.
Oui, et même compliquée par le coronavirus. La Gambie en stage au Qatar a dû annuler ses matchs amicaux contre l'Algérie et la Syrie. La fédération, dans un communiqué, précise que ces annulations sont dues à l'indisponibilité de 16 joueurs touchés non seulement par le virus, mais aussi les maladies, les blessures et les restrictions de voyage. À la CAN, la Gambie affrontera dans le groupe E la Tunisie, le Mali et la Mauritanie.
La Côte d'Ivoire en stage à Jeddah en Arabie Saoudite est également en sous-effectif.
Tout à fait, car plusieurs joueurs manquent toujours à l'appel. On dénombre même des cas positifs au Covid-19, notamment Wilfried Zaha. L'ailier de Crystal Palace risque de rater les premiers matchs de son pays à la CAN. Outre les blessés et les malades, les Ivoiriens risquent d'aller au Cameroun sans leur gardien de but Sylvain Gbowo. L'ancien joueur de TP Mazembe a été suspendu à titre provisoire par la FIFA pour une affaire de produits interdits retrouvés dans ses urines. C'était lors d'un contrôle antidopage en novembre dernier à l'issue du match des éliminatoires de la Coupe du Monde à Yaoundé face au Cameroun.
Malgré les difficultés, des sélections en tout cas livrent déjà des matchs amicaux.
Oui, le Burkina Faso qui a d'ailleurs disputé deux rencontres après le nul blanc face à la Mauritanie. Les étalons pour leur deuxième match ont battu hier le Gabon 3-0. Satisfait, le sélectionneur burkinabé veut plus faire progresser son équipe avant la CAN. Kamou Malo.
Les garçons ont vraiment respecté les consignes de départ et ça, on est toujours resté dans notre organisation et malgré le résultat. Alors, c'est ce qui peut donner satisfaction. À l'entame d'une compétition, vous engrangez un tel score, c'est toujours flatteur, mais moi je dis que ce n'est pas indicatif parce que, rappelez-vous, après le match nul contre la Mauritanie, j'ai dit que c'était un très bon match parce que le match nul met encore la pression sur les garçons. Alors, mais en gagnant aussi largement, on se croirait peut-être indéboulonnable, alors que ça, ce n'est pas des bonnes indications. Moi, je préfère une équipe qui va dans la compétition avec beaucoup de crainte.
Kamou Malo, sélectionneur des étalons du Burkina Faso au micro de Kader Traoré. Autre rencontre amicale entre deux autres sélections qui sont à la CAN. Le Malawi a battu les Comores 2-1.
Le foot ne s'arrête pas en Angleterre, même en période de fête.
Exactement Idrissa, le Boxing Day se poursuit et on a joué la 21e journée du championnat. Et Manchester City a réalisé la bonne opération après son succès 2-1 sur la pelouse nationale. Les hommes de Pep Guardiola profitent du nul 1-1 entre Chelsea et Liverpool pour creuser l'écart au classement. On jouait aussi en Espagne avec la 20e journée de la Liga qui n'a pas du tout souri au leader le Real Madrid qui s'est incliné 1-0 à Getafe. Contre le FC Barcelone a bien entamé l'année 2022 par une victoire 1-0 à Majorque. Un succès qui permet aux Catalans de remonter à la 5e place à une unité de l'Atlético Madrid classé 4e. Et puis, du basketball pour finir, la NBA. Et avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Les LA Lakers battent Minnesota 108 à 103, Toronto démolit New York Knicks 120 à 105, plus serré entre Boston et Orlando 116 et 111 respectivement, Cleveland et Indiana 108 à 104, Sacramento 115, Miami 113, Phoenix massacre Charlotte 133 à 99, Dallas et Oklahoma City 95 à 86.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, le président Paul Biya a fait part de sa détermination à rechercher sans relâche les commanditaires des activités criminelles dans les deux régions anglophones. En proie à une crise depuis 2016, M. Biya a fait cette déclaration dans son discours de fin d'année, promettant par ailleurs de renforcer la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics. Les réactions n'ont pas tardé, nous dit notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Ceux qui vont se rendre coupables de malversations financières ou d'enrichissement illicite vont rendre compte devant les juridictions compétentes. Le président Paul Biya l'a martelé sous un ton ferme le 31 décembre dernier dans son traditionnel discours à la nation. Une annonce qui reconforte le Premier ministre Joseph Dion Nguté.
C'est un message de fermeté par rapport à un certain nombre de problèmes que nous traversons, des problèmes de gouvernance, et vous avez entendu ce qu'il a dit à propos de ceux qui sont indélicats par rapport à la fortune publique. C'est un message que je reconnais à partir des instructions qu'il nous donne au gouvernement, des audiences que je bénéficie régulièrement quand je le rencontre.
Sous un ton ferme également, Paul Biya a exclu toute quiétude aux Camerounais enrôlés dans les bandes armées. Ils seront recherchés sans relâche où qu'ils se cachent et sanctionnés avec toute la rigueur de la loi, a-t-il promis. Pour le président camerounais, ses compatriotes continuent de se livrer à des activités criminelles en multipliant les attaques aux engins explosifs improvisés, le meurtre des civils désarmés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Fin de citation. Réaction d'Armand Parfentia, consultant en relations internationales.
Si le Cameroun est venu à bout de Boko Haram dans le combat contre le terrorisme, c'est avec l'implication de la population. Il faut donc amener la population à adhérer à la cause du combat du sécessionnisme. Il faut bien que la population participe au renseignement, que la population aide l'armée. Cela revient même à la rhétorique habituellement utilisé par le président de la République du Cameroun, notamment le lien armée-nation.
Alors que le Cameroun s'apprête à accueillir dimanche prochain la Coupe d'Afrique des Nations de football, Paul Biya a expressément demandé aux Camerounais à se faire vacciner et de ne pas prêter le flanc aux conjectures complotistes qui foisonnent sur les réseaux sociaux concernant le vaccin contre le coronavirus. À Yaoundé, cet appel à la vaccination est diversement apprécié. Isabelle Amiro-Bellinga est agente commerciale.
Non, c'est une très bonne décision. Pour moi, je me fais vacciner pour être dans tous les matchs, vivre la CAN en direct dans mes stades au Cameroun.
Ces deux autres résidents de la capitale se prononcent sous anonymat sur l'appel à la vaccination du président de la République.
Moi, je trouve que l'idée déjà n'est pas très bonne. Et s'ils disent qu'on ne peut pas intégrer les stades à cause du vaccin, je préférerais voir mes matchs à la maison sur place.
Je ne pense pas que je me ferais vacciner pour suivre les matchs parce que je ne suis pas déjà intéressé par ce vaccin.
Paul Biya a en outre annoncé la création de 3 universités d'État dans les régions du Nord, de l'Est et du Sud, suscitant des réactions d'approbation dans les régions concernées. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
La Guinée vers l'organisation des assises nationales, c'est le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, qui en a fait l'annonce dans son adresse à la nation à l'occasion du nouvel an. Le chef de la junte au pouvoir en Guinée a réitéré sa volonté de rendre le pouvoir aux civils dans ce discours très commenté à Conakry. Au micro de notre correspondant Zakaria Camara, voici quelques réactions de citoyens guinéens.
Les assises nationales, dénommées Journée de vérité et pardon, seront organisées avant la fin du premier trimestre de cette année dans tout le pays et dans les ambassades guinéennes. Pour Saïkou Yaya Bari, secrétaire exécutif de l'UFR, parti de l'ancien Premier ministre Sidia Touré, la junte aurait pu mieux faire que de vouloir reproduire le modèle malien.
Nous sommes en train un peu de copier ce qui se passe au Mali, alors que nous ne sommes pas dans les mêmes situation, il faut le reconnaître. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une consultation qui a été faite ici, dirigée par nos religieux, qui ont produit un document extraordinaire qu'on peut ressortir pour faire avancer les choses dans notre pays.
D'autres annonces ont été faites par le colonel Mamadi Doumbouya. Je suis là pour servir. Le moment venu, je vous remettrai le pouvoir, a-t-il dit. Un rappel que Saïkou Yaya Bari trouve insuffisant comparé à la durée de la transition qui reste indéfinie.
Pour ce qui est de la durée de la transition, on a été un peu surpris que cela revienne toujours au niveau de la CENI, alors que le président de la transition a décidé avec ses hommes, à eux seuls, de faire la rupture en faisant un coup d'État. Il est de leur responsabilité de nous dire en combien de temps ils peuvent amener le pays vers le retour à l'ordre constitutionnel.
Dans les rues de Conakry, certains Guinéens ont accepté de dire ce qu'ils retiennent du discours du président de la transition en Guinée.
Moi, ce qui m'a marqué le plus dans son discours, c'est là où il a reconnu certaines de leurs décisions qui n'ont pas été appréciées au niveau de la population. Par exemple, la rebaptisation de l'aéroport et la restitution des cases de Bellevue. Mais du coup, comme lui-même, il a reconnu qu'ils ont fait des erreurs, donc je pense que le futur sera vraiment meilleur, quoi.
Il y a une partie que j'ai constatée, il parlait d'avoir confiance en lui. Hein? Bon, là, cette confiance, je trouve que nous sommes en train de l'observer et voir. C'est les actes qui font que nous ayons confiance. Donc, de ne pas suivre les affinités, d'être comme le premier jour, de ne jamais oublier son premier discours qu'il nous a dit, qu'il nous a tant rêvé, et on en croit, c'est tout.
La junte au pouvoir en Guinée multiplie les actions pour rassurer les Guinéens, mais aussi la communauté internationale. Vendredi, elle a annoncé que le président déchu Alpha Condé est désormais autorisé à quitter la Guinée pour des examens médicaux. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
À l'approche des élections locales au Sénégal, beaucoup de jeunes surentraînés et de lutteurs investissent le champ politique pour faire office de garde du corps ou nervis. Une tendance qui amène souvent la violence dans la campagne à cause du manque de formation et d'expérience de ces jeunes dans le domaine de la sécurité rapprochée. Nervis, population et politiciens se prononcent. De Dakar, notre correspondant Sédina Abagui.
Durant les campagnes électorales, des bagarres débouchant des fois sur de graves blessures et morts d'hommes sont causées par des nervis. Recrutés pour assurer la sécurité, ils n'en ont pas les compétences. Les hommes politiques qui les emploient sont les premiers incriminés. Ils se défendent d'être tous pareils. Aline Badalasek, candidat à la mairie de Ndiarem Blima Moulay, dans la banlieue de Dakar, rejette la faute sur les autres.
C'est inadmissible qu'un leader politique, quel que soit son rang sur le champ politique, de recruter des nervis qui n'ont aucune qualification en matière de sécurité. Parce que disons que la sécurité rapprochée est une formation professionnelle qui se fait parce qu'on doit protéger la personne et protéger aussi le champ de la personne, le chemin qu'il doit prendre, tout ça, alors que les nervis sont juste là pour tabasser les pauvres citoyens. C'est inadmissible, c'est vraiment écœurant.
Pour Abdoudja, un habitant de la banlieue dakaroise, certains politiciens mettent en péril leur sécurité et celle des citoyens en usant de l'argument de la force.
Moi, je pense que les politiciens qui utilisent les nervis n'ont pas confiance en eux, hein, parce que bon, à chaque fois, on assiste à des détournements de centaines de milliards dans ce pays, raison pour laquelle là où ils se déplacent, ils utilisent des nervis pour pouvoir se protéger, quoi. Moi, je pense que normalement, s'ils avaient les mains vraiment très très propres, ils n'avaient pas besoin de nervis, quoi. Mais je pense que c'est pas une chose normale, quoi. Pour les nervis eux-mêmes, c'est très 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 dangereux pour eux, parce qu'il y a des zones où ils rentrent avec les politiciens, ils risquent d'être tués. Ou si on les identifie, leur famille et toute leur compagnie sont vraiment menacées. financer.
Les jeunes utilisés comme nervis par les politiciens sont conscients du danger, mais le manque de ressources les pousse à risquer leur vie pour une modeste somme. Ce jeune de la banlieue exerce dans le domaine. Il a requis l'anonymat pour donner son témoignage.
Nous, on a de la force, on s'entraîne tous les jours et on n'a pas de travail. Donc si on nous appelle pour sécuriser une personnalité politique et qu'on nous paye, même si on nous appelle nervi, on gère car on nous paye la journée 10 000 francs CFA. On est obligé d'accepter, on n'a pas le choix. Il y a des risques bien sûr parce que sécuriser une personnalité demande beaucoup de choses. Des fois on se bat même pour protéger les leaders sans arrière-pensée, quitte même à tabasser certaines personnes pour montrer qu'on fait bien notre travail. Il y a beaucoup de risques, on peut même y laisser la vie.
Pour contrecarrer les nombreuses dérives notées durant les périodes électorales au Sénégal, le ministre de l'Intérieur a émis un arrêté interdisant le port d'armes de toute catégorie jusqu'au 20 février 2022. Reste maintenant à réguler l'épineux problème de la sécurité privée durant la campagne. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Tchad, ouvert le 27 décembre dernier, le festival d'Ari, en arabe local qui signifie « mon pays », se déroule à la place de la nation de N'Djamena. Après son interruption en 2020 à cause de la pandémie du Covid-19, cette troisième édition a vu la participation des délégations des 23 provinces tchadiennes, d'entreprises locales et d'artisans étrangers. Plusieurs activités culturelles, artistiques et touristiques sont au menu, nous dit de N'Djamena notre correspondant André Kotmadjingar.
Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Cette citation de l'homme politique Marcus Garvey semble avoir trouvé une place dans la politique des autorités tchadiennes depuis 4 ans. Initié par le feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno en 2018, le festival d'Ari, qui se veut un creuset de l'unité nationale, de la tolérance et de la cohabitation pacifique en valorisant les richesses et le brassage culturel des 23 provinces du pays, et à sa troisième édition. Madame Ashta Djibrimsi est le chef du département de la culture.
Chaque groupe a une danse particulière, a une tenue particulière et le tour que nous venons de faire avec son excellence Monsieur le Président nous a permis effectivement de voir qu'il y a également la diversité alimentaire.
Grâce à l'Arndogonouji fait partie de la délégation des femmes transformatrices des beurres de karité du Logon oriental.
Les produits locaux que nous avons apportés sont les beurres de karité, c'est les amandes cuites d'abord de karité que nous avons transformées en beurre baraté. Nous avons apporté aussi les nérés qui sont transformés sur place par les femmes d'une association du nom Kagroito Majlédenenge de la Pende. Nous avons apporté aussi les mangues séchées. Pendant l'abondance de mangues, on a coupé ça pour faire sécher. Nous sommes du Logon oriental, nous avons apporté l'oï encore, l'oseille de chez nous.
Ces festivalières déplorent le manque de clientèle, mais pour d'autres, l'important pour elles, c'est d'avoir une occasion pour montrer leur génie créateur. Elles évoquent également la question de la prise en charge.
Même si les gens ne prenaient pas beaucoup, un portable, ils achètent. Et c'est pas seulement acheter, mais nous exposons pour que le monde puisse voir qu'au Tchad, il y a des diversités de produits.
Nous avons de prendre en charge. On n'a pas de nappes de dossier. Depuis le matin, c'est le quai seulement que nous prenons seulement, il n'y a rien.
On ne peut pas dire qu'on fait manger notre pain parce que nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes en N'Djamena et les choses sont chères. Donc si on trouve à manger, à boire de l'eau, nous remercions le bon Dieu pour ça.
Des objets d'art, mais aussi des danses guerrières datant du XVIIe siècle, originaires du Grand Mayu qui vit dans le sud du Tchad, des luttes avec les lances, les bâtons et les boucliers traditionnels ont été montrés aux jeunes générations. Ce n'est pas tout. Ce festival a vu également la participation des artisans des pays voisins. C'est le cas du président des artisans de Maroua au Cameroun, Moussa Mamadou. Il apprécie l'organisation de cette rencontre culturelle.
On est en train de voir quelque chose de merveilleux au Tchad. Et là, tout le monde peut exposer sa culture. Bon, le gouvernement tchadien a fait beaucoup pour mobiliser tous les Tchadiens et que tout le monde puisse s'épanouir. Vraiment, c'est exceptionnel. Nous, on est très, très fiers de voir ça.
La troisième édition du Festival d'Ari a prévu un pavillon d'exposition en hommage à feu maréchal du Tchad, l'initiateur de cette messe culturelle. André Kodomadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
C'est
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre vos émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seboudia et Michel Joseph, qui était également la mise en onde, à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.